Masqué.
Radio Panique 105.4.
105.4.
Quand les jeunes prennent le mic.
Radio Panique.
Mesdames, messieurs, on vous présente
Psychopathe
Malou.
Ric Ric.
800 soins.
Salut, c'est Tintin.
Salut, c'est Coraline.
Salut, c'est Angel.
Salut, c'est Monsieur Chapeau.
Et maintenant, c'est parti pour le sommet.
Chers auditeurs et auditrices, c'est l'émission masquée. Ici, c'est Psychopathe et je suis en présence de...
Ric Ric.
Tintin.
Monsieur Chapeau.
Coraline.
Angel.
Adam.
Au sommaire de cette émission, chers auditeurs, un sujet sur les chevaux. Comment survivre sur une île déserte? Êtes-vous adepte de Koh-Lanta? Et maintenant, commençons par les trous noirs. Bonjour, ici Radio Panique, c'est Psychopathe et je suis en présence de
Simba.
Toi, qu'est-ce qu'un trou noir?
T'as géré, hein? Non, on n'est plus a priori
un
plus.
Trou en... qui est noir? Ou.
On n'est plus.
Trou noir. Oh punaise, c'est dur comme question. C'est très dur. Un trou noir, ben. J'aurais tendance à dire, genre, avoir un trou de mémoire. Enfin, je sais pas, un trou noir. Enfin, je sais pas. C'est dur, hein, comme question. Mais voilà. Moi, pour moi, en tout cas, ça évoque. Une perte de mémoire ou quelque chose de négatif, je sais pas. Voilà.
Pour toi, à quoi ressemble un trou noir?
Ben, quelque chose... Un trou? C'est dur, hein? Alors, à quoi ressemble un trou noir? Ben, un trou qui est noir. Je sais pas, qui est sombre. Quelque chose qui est sombre.
Selon toi, peut-on voir un trou noir sans télescope?
Attends, télescope, c'est le truc... Tu me demandes si on peut voir un trou noir sans télescope. Ben, je pense que oui. Enfin, je crois. Ouais, enfin, parce que je vois pas le lien avec le télescope. Enfin, ben bon... Parce que t'as un trou devant toi qui est noir, tu le vois.
Salut à tous, ici Radio Panique et c'est Psychopathe en présence de...
Carlo.
Allez, maintenant on va commencer les questions sur les trous noirs. D'accord. Pour toi, qu'est-ce qu'un trou noir?
Moi, je ne me connais pas beaucoup en astronomie, mais je pense que c'est quelque chose d'énorme dans l'univers qui avale l'énergie... Et donc, une puissance phénoménale, elle peut vraiment, dans l'intérieur du trou noir, il peut avaler vraiment des planètes, même des étoiles, et qu'à l'intérieur, il n'y a plus le temps ou l'espace. Ben, je ne sais pas, c'est le peu que je connais de trous noirs. Et ce sont énormes.
Qu'est-ce qu'un trou noir?
C'est noir, peu visible. Un engloutissement complet.
Qu'est-ce qu'un trou noir?
Un espace comme ça où il n'y a pas la lumière. Mais bon, difficile à dire quelle forme. J'imagine pas en fait. Et qu'à l'intérieur il n'y a plus le temps ou l'espace.
Je dirais que c'est une sorte de cratère ou de trou dans je sais pas trop quoi. En fait, je me représente pas très bien ce que c'est. Une sorte de vide infini, d'espace-temps qui ne compte pas. Je ne sais pas très bien, en fait.
Je pense que ça doit ressembler à un petit amas. Je sais pas quelle taille ça a, mais ça doit ressembler à une boule noire, tout simplement. Un amas de matière extrêmement dense. C'est la matière la plus dense qu'on puisse observer dans tout l'univers ici.
L'explosion des étoiles. À l'époque du Big Bang avec les atomes, mais comme je n'ai pas fait d'études scientifiques, je ne saurais pas répondre plus précisément.
Que se passe-t-il quand on tombe dans un trou noir, selon vous?
On est aspiré. Et donc on disparaît dans le trou noir.
Selon vous, peut-on créer un trou noir nous-mêmes?
J'imagine que des scientifiques ont déjà essayé dans des laboratoires de reproduire des trous noirs et certainement pas aussi conformes à ceux qui se font naturellement, mais qu'il y a une possibilité quand même de faire quelque chose de similaire.
Pour vous, serait-il possible qu'un trou noir aspire la Terre?
Probablement pas à cette période-ci parce qu'ils sont vraiment trop loin, mais on ne sait pas comment la Terre évolue et ce qui serait possible dans 1000 ans, 10 000 ans, 100 millions d'années. Je ne pense pas qu'il y ait une réponse définitive. Pour l'instant, non, je ne pense pas, mais peut-être qu'avec les transformations de la planète, oui.
À votre avis, où se trouvent les trous noirs?
Dans la galaxie.
Salut à tous, ici Radio Panique, c'est Psychopathe, je suis en présence de
Sticky.
Selon toi, peut-on voir un trou noir sans télescope?
Je pense s'il y avait un trou noir suffisamment proche de nous qu'on pourrait l'observer sans télescope, oui. Mais actuellement, sans télescope, vu qu'il n'y en a pas tout près de la planète, sans télescope c'est difficile, mais je pense s'il y en avait un tout près, oui, ce serait possible.
Y a-t-il un film qui se déroule dans l'espace qui t'a marqué?
Oui, il y en a un qui m'a marqué, notamment ça parle de trous noirs. C'était, j'ai oublié le nom de ce film avec Matthew McConaughey là, où il va dans l'espace et il parle pas mal de singularité. Et au final, à la fin du film, il fait l'expérience d'aller justement dans un trou noir.
De panique.
Bienvenue à l'émission Masquée.
C'est parti.
Eh bien, chers auditeurs de retour en studio, ici c'est Ric-Ric. Et donc, voilà, après ce sujet savamment préparé par Psychopathe autour de ce sujet des trous noirs, finalement, qu'on a tous entendu parler, mais c'est pas facile de dire finalement ce que c'est qu'un trou noir. Peut-être Psychopathe qui s'intéresse toujours au sujet va pouvoir nous en dire un petit peu plus. Alors, Psychopathe, peux-tu nous éclairer un petit peu notre lanterne? Et c'est quoi un trou noir alors, finalement?
C'est les résidus d'une étoile massive qui a explosé.
Et c'est éternel?
Non, parce que ça s'évapore. Ça dure longtemps, ça s'évapore dans l'espace comme ça. Ça s'appelle le rayonnement de Wanking.
D'accord.
Ça dure plusieurs milliards d'années.
Ok, alors c'est vrai qu'il y a une question qui revient assez souvent, c'est tiens, si on avait la possibilité d'approcher un trou noir, que se passerait-il si on tombait dans un trou noir?
Eh bien, on serait d'abord attiré vers le trou noir comme si on tombait sur Terre, sauf que vu que le trou noir est beaucoup plus dense et plus massif, et ben c'est beaucoup plus rapide et plus violent. Et alors, par exemple, on va dire, nos pieds, ils sont devant le trou noir, vers le trou noir, et ben ils seront plus vite étirés que notre tête, et on va se faire spaghettifier après.
C'est charmant comme perspective, si je peux me permettre.
Ok, et on arrive à détecter des trous noirs quand même, parce que si on peut éviter de se faire spaghettifier, bon, on va éviter.
Oui, on peut en détecter, mais pas en les regardant, parce qu'ils sont trop loin et trop petits et trop sombres. Il faut les détecter grâce à leurs perturbations gravitationnelles, parce que par exemple, les rayons lumineux, quand ils passent à côté, ça fait une déformation comme une lentille, tu vois, et donc aussi, quand il y a une étoile qui passe à côté, eh ben, elle accélère, elle tourne autour. Et les scientifiques ils se disent qu'il y a sûrement quelque chose qui fait ça. Alors ils se disent que c'est un trou noir, peut-être.
D'accord, c'est quelque chose d'assez fascinant, ça fait un petit peu peur aussi, quand même. Est-ce que c'est possible qu'un trou noir comme ça approche, aspire la Terre ?
Peut-être, sûrement pas maintenant, mais sûrement peut-être quand le système solaire, dans plusieurs milliards d'années sûrement. Mais d'accord. Je ne pense pas, parce qu'il y a très peu de chances que ça arrive. Vu les trous noirs, il y en a très peu comparé au nombre d'étoiles. C'est bien dispersé dans la galaxie, donc...
Donc c'est loin, ça.
Il y a peu de chances d'en croiser un, surtout pas maintenant, quoi.
D'accord, et ça se trouve... Tu les trouves où, finalement ? Dans notre galaxie, quand même, ou pas ?
Oui.
Oui, quand même.
Il y en a quasiment dans toutes les galaxies. Hein. Ah. Ouais, il y en a à peu près, genre, on va dire... les trous noirs normaux, qui sont formés après qu'une étoile ait explosé. Et ben, il y en a un peu partout, c'est dispersé. Il y en a peu, mais il y en a un peu partout, quoi. Il n'y a pas d'endroit précis. Mais les trous noirs qui sont encore plus massifs, ils ont tendance à être au centre des galaxies, puisqu'il y a tout qui tourne autour, vu qu'ils sont plus lourds. Comme les planètes qui tournent autour du Soleil. Donc ça tourbillonne.
D'accord. Et il y a des sortes de trous noirs quand même qui sont différents. Il y a les micros, les macros, les géants, les, je sais pas, les petits.
Les trous noirs qu'on a l'habitude de voir dans les films, par exemple, s'appellent des trous noirs stellaires. Et c'est cela que, quand les étoiles explosent, et ben c'est comme ça qu'on les appelle. Ils font genre 2-3 masses solaires, comme ça, c'est petit. Et il y a aussi les trous noirs que les scientifiques ils créent en laboratoire avec un accélérateur de particules. Il crée des genre deux particules qui s'entrechoquent à la vitesse de la lumière. Ça crée un micro trou noir. C'est tout petit, ça disparaît instantanément. Et sinon, il y a aussi les trous noirs intermédiaires. C'est à peu près genre quelques milliers de masses solaires. Ensuite, il y a les supermassifs, c'est quelques millions. Et c'est ceux-là qui sont en centre des galaxies, on va dire à peu près. Et les supermassifs, c'est plusieurs milliards.
Ok. Ben dis donc, voilà, t'en connais quand même un rayon sur le sujet. En tout cas, je trouvais c'était assez sympa d'avoir quand même des informations par rapport à sur ce sujet-là, quoi. Parce que c'est vrai que, ben voilà, tout le monde ne s'intéresse pas forcément à l'astronomie, moi le premier. Et ben voilà, toi, par exemple, si c'était possible, psychopathe, ça te plairait d'aller dans l'espace ?
Peut-être un petit peu pour voir l'expérience que ça fait d'être en apesanteur et de voir les étoiles, ça doit être super joli, mais sinon j'aimerais pas y rester parce que quand on reste en apesanteur, et ben, le corps et ben, il est pas adapté.
D'accord.
Ce qui deviennent de plus en plus faibles parce qu'on porte rien et.
D'accord. Voilà. Je vais demander un petit peu aux autres personnes autour de la table, bon, voilà, s'ils s'intéressent un petit peu à la chose spatiale. Adam, est-ce que tu t'es déjà posé des questions sur l'espace ? Tu dis, j'aimerais bien aller dans l'espace. Est-ce que tu voulais devenir cosmonaute, peut-être encore maintenant, quand tu étais plus petit ? Je ne sais pas.
Oui, je me posais des questions. Genre, quelle sensation ça faisait d'être en apesanteur ?
Et est-ce que, je sais pas, tu regardais des fois le ciel étoilé la nuit ? Ou jamais, finalement ?
Non, pas trop.
Pas trop ? Angel ?
Non, moi, ça m'intéresse pas du tout.
C'est pas du tout un domaine qui t'intéresse ?
Non, vraiment pas.
En particulier. Et t'avais déjà entendu cette expression sur les trous noirs ou pas ?
Non.
Non, tu découvres là, en fait. D'accord.
Je pense qu'on a une réaction par
Monsieur
téléphone.
Chapeau ?
si je ne me trompe pas, Katken nous fait signe en régie, on aurait quelqu'un au téléphone. Notre premier auditeur par téléphone depuis 2 ans.
Là.
Attention. Alors on peut l'accueillir, du coup, qui est-ce qui est au bout du fil?
Allô.
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 Oui, bonjour, je suis une dame bruxelloise.
Bonjour.
Ah.
Bonjour, chère dame bruxelloise.
Bonjour, j'étais très intéressée par les trous noirs. Et j'ai entendu parler d'un... Il y a quelque chose qui m'a intriguée. Il y a la présentatrice là, du débat parlait de la spaghettification.
Oui.
Oui.
Voilà, ça m'intriguait.
D'accord, c'était vraiment
dans... Je me demandais si on se transformait en spaghetti au moment où on était happé, les pieds d'abord et la tête après.
Non, ah oui, non. Oui, bah voilà, ah oui. Alors, voilà, c'était psychopathe. Hein.
Ouais.
Psychopathe se laisse répondre à notre auditrice.
En fait, je vous explique, on se transforme pas en spaghetti, mais c'est juste que la gravité est tellement forte qu'on devient tout petit, tout fin. Et alors, comme un fil, en fait. Mais genre, sauf que c'est nous, c'est pas du plastique ou quoi. Et genre, on chauffe à des millions de degrés ou des milliards, parce que c'est très fort et c'est une pression, et on tourne très vite. Mais on n'est pas des spaghettis comestibles, hein, par exemple.
Voilà, c'est pas comme chez Barilla, quoi.
Ouais, voilà, on n'est pas des spaghettis italiennes. Hein.
On fond.
Voilà.
Non, fond, pas vraiment, on est plutôt un état de plasma.
En fait, l'idée, c'est d'être très très déformé, finalement.
Ouais, voilà, on est très déformé par la gravité, quoi.
Ça fait mal ou pas? Parce que je me dis, si on est étiré...
Ouais, sûrement, mais on est déjà mort avant de...
Oui, ça doit être ça.
C'est l'avantage.
Avant d'arriver au trou noir, mais... vous avez une autre question, chère auditrice?
Non, mais c'est très gentil. Merci beaucoup. Merci pour la qualité de votre émission.
Moi, j'ai une question pour notre auditrice.
Merci à vous. Oui,
est-ce qu'elle peut nous donner le numéro de téléphone à composer pour arriver jusqu'à Radio Panique?
Oui, bien sûr. Donc, j'ai formé le 02 732 0450. Je répète, 02 732 0450.
Merci beaucoup.
Merci, chère auditrice.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Mais j'ai une question, Ric-Ric.
Oui, Tintin.
Les Martiens, est-ce qu'ils existent vraiment?
Je vais te dire un truc. Moi, tu me demandes mon avis à moi?
Ouais.
Moi, je pense qu'on n'a pas connaissance encore de vie extraterrestre, en tout cas sous forme de petits bonhommes verts, quoi. Hein. Peut-être que Psychopathe pourrait nous dire ce qu'on a trouvé comme forme de vie dans l'univers. Peut-être de l'eau sur d'autres planètes.
Ouais, on a trouvé de l'eau déjà.
Des microbes, peut-être.
Ouais, en fait, tu veux que je te dise, il y a Curiosity, c'est le robot qui est sur Mars pour chercher s'il y a de l'eau ou quoi, de la vie. Il a déjà trouvé une pierre. Où il y a du carbone, il pourrait avoir de la vie dessus, mais pas des humains ou quoi. C'est comme des cellules fossilisées comme ça. Et sinon, à part Mars, il y a aussi une autre planète. Non, pas une planète, un satellite naturel. Il y en a un qui est autour de Jupiter, qui s'appelle Europe. Et c'est un satellite de glace, en fait, c'est de l'eau. Il y a une couche, genre plusieurs kilomètres de glace. Et en dessous, il y a de l'eau liquide. Mmh. Parce qu'en fait, Jupiter, vu qu'elle est très massif, la gravité, elle chauffe le noyau. Donc ça fait de la chaleur et c'est... La température, elle est idéale pour accueillir la vie, peut-être. Donc peut-être qu'il y en a. Et il y a aussi un autre satellite, c'est Encelade. C'est autour de Saturne, c'est aussi avec de la glace. Et il fait des geysers. Il y a aussi une couche de glace et de l'eau en dessous. Et là aussi, il pourrait y avoir de la vie.
D'accord, donc des traces de vie quand même qui existent un petit peu à droite, à gauche dans l'univers, mais pas vraiment de menaces extraterrestres ou de rencontres du troisième type encore. Est-ce que peut-être encore quelques réactions, peut-être en studio, par rapport à tout ça?
Ouais, Ric-Ric, ça a l'air vraiment intéressant en fait, son sujet, donc... Ça,
ah oui, ah bah oui, tout à fait. C'est vrai qu'on se sent tout petit, hein.
Ouais. c'est vrai que ça, c'est une expérience à tester, aller dans l'espace.
Ah bah oui, si on me dit peut-être, oui, c'est pour l'instant, c'est
moi,
pas à la portée de tout le monde.
Ça s'appelle 0G, c'est des avions qui volent comme ça, spéciaux. Et genre, c'est pour les scientifiques en général. Ils volent comme ça, ils font des courbes. Et alors, on peut expérimenter l'apesanteur pendant quelques secondes, 30, on va dire.
Nous avons un deuxième auditeur.
Là.
Et on n'a jamais eu autant. Bonjour, cher auditeur.
Oui, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Voilà, alors j'appelle. C'est Panda.
Bonjour, Panda.
Bonjour. Et voilà, je voudrais savoir quand se termine le trou noir.
Ah ah.
Bonne question.
Ah, alors. Peut-être, psychopathe, aurais-tu une réponse pour notre auditrice? Le trou noir a-t-il une fin, finalement?
On va dire qu'il vit plusieurs milliards d'années, mais l'univers est trop jeune pour avoir pour faire qu'un trou noir disparaisse. Ils n'ont pas encore disparu, parce que l'univers a 13 milliards d'années, mais les trous noirs, ils s'évaporent plusieurs milliers de milliards d'années, quoi. C'est vraiment beaucoup plus.
D'accord, donc on en a vu... Ce que tu veux dire, c'est qu'on en a... Est-ce qu'on en a vu la création d'un trou noir? Mais jamais la fin, quoi. C'est un peu ça l'idée.
On a déjà vu des étoiles qui explosent, et c'est comme ça que ces trous noirs se forment.
D'accord, mais donc on connaît la formation, mais la fin, on la connaît pas encore vraiment.
La fin, pas vraiment. C'est une hypothèse, quoi, de scientifique. Mais
d'accord.
Moi, je trouve que c'est possible, quoi.
D'accord. Est-ce que ça va pour vous comme réponse, chère auditrice?
Merci beaucoup. Oui, comme ça, on a au moins notre réponse, mais... C'est une réponse qui n'en est pas une, en fait.
D'accord, oui. Ok, bah, continuez à nous écouter. En tout cas, merci d'avoir appelé.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Et on va passer à notre prochain sujet.
Après suite victory de SpongeBob, Tintin vous expliquera l'aventure de Koh-Lanta.
The winner takes all. It's the thrill of one more kill, the last one to fall. We'll never sacrifice their will. Don't ever look back on the world closing in. Be on the attack with your wings on the wind. And it's sweet, sweet, sweet victory. Yeah. And it's ours for the taking. It's ours for the fight. And it's sweet, 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 sweet victory. Yeah. And the world is ours to fall. The winner takes all. Yeah. It don't win no seed. You only lose the gold. You push with a fever. Oh, your time keeps going on. Against all the odds, against all your pain, your back's on the wall with no one to blame. All hearts will contain.
Et nous revoici en studio. Et donc c'est Monsieur Chapeau et Tintin. Aujourd'hui Tintin il va nous parler de Koh-Lanta. Alors Tintin, est-ce que tu peux m'expliquer le principe de Koh-Lanta?
Bien sûr Monsieur Chapeau. Donc en fait dans cette aventure il y a 42 participants dont deux équipes, les jaunes et les rouges, qui vont sur une île déserte pour passer des épreuves de confort et d'immunité. Il y a aussi une autre île qui est tout nouveau qui s'appelle l'île au trésor, qui permet d'aller directement à l'épreuve d'orientation.
Attends, tu me parles de confort et d'immunité. Moi, je comprends pas bien. C'est quoi la différence?
En fait, les conforts, c'est des outils pour pêcher, manger de la nourriture, des fois même prendre un bain, des aides pour survivre sur l'île, quoi.
Et l'immunité?
L'immunité, c'est l'équipe qui perd, elle va au conseil, et il y a un vote pour éliminer un membre de son équipe. Et la personne éliminée doit faire un vote secret pour le conseil suivant de sa tribu, qui s'appelle le vote noir.
Et il y a quoi comme type d'épreuve sur Koh-Lanta? Au final, c'est plutôt sportif, c'est quoi?
Il y a des épreuves sportives, donc physiques, et mentales. Donc, faut savoir manger des choses un peu moins appétissantes, quoi.
Comme quoi, par exemple?
Je sais pas, des cafards avariés, des yeux de chèvre ou je sais pas quoi.
Ah mais c'est génial ça.
Ça a l'air bon.
Ouais. Attends, tu m'as parlé d'une deuxième île et d'une épreuve d'orientation. Moi je capte pas, je suis un peu novice là-dedans.
Ben, l'île au trésor, c'est... En fait, il faut trouver 10 balises pour trouver un anneau d'or qui est caché pour permettre d'aller directement à l'avant-dernière épreuve de l'émission, appelée l'épreuve d'orientation.
Ah, ok, d'accord. Et l'épreuve d'orientation, c'est quoi ?
L'épreuve d'orientation, c'est pour les 4 derniers survivants qui doivent trouver un couteau en s'orientant avec une table avec les points cardinaux, quoi. Le nord, le sud, etc. Et les 3 premiers qui en trouvent un vont à la dernière épreuve, quoi, l'épreuve des poteaux.
Ok, alors attends, je pense qu'on a un 3e auditeur, on n'a jamais eu ça, qui veut intervenir. Bonjour, cher auditeur.
Bonjour, j'ai une question pour Tintin.
Ah, oui.
Oui, je vous écoute.
Alors, est-ce qu'il aimerait participer à l'émission Koh-Lanta ?
Ça me déplairait pas trop, mais disons que les petites bêtes, ça me dérangerait un petit peu, quoi.
Ouais. Et vous, cher auditeur, d'ailleurs, on n'a pas votre nom. C'est quoi votre petit prénom ? Enfin, votre
Tanguy.
Et Tanguy, vous serez chaud de faire Koh-Lanta ?
Non, pas trop. J'aime pas trop non plus les bêtes.
Et qui par contre, vous regardez ?
Non, non plus.
Ok, d'accord. Donc ça vous intéresse pas trop, mais vous voulez savoir si notre ami Tintin, lui, aurait eu le courage de le faire.
Oui.
Eh bien écoutez, merci beaucoup.
De rien.
Une bonne journée. Au revoir.
À vous aussi.
Au revoir.
Et donc, si je comprends bien, le but, c'est de survivre sur une île. Donc je reprends le fil de ma petite interview. C'est de survivre sur une île tout en gagnant le droit de rester sur une île, toujours, en remportant des épreuves d'immunité.
C'est ça.
Et il y a un moment où il n'y a plus qu'une seule équipe.
Oui, c'est la réunification.
C'est quoi la réunification ?
Ben, en fait, c'est les deux équipes qui se rassemblent, quoi. Et en fait, les jaunes et les rouges deviennent la tribu blanche, quoi.
Ok. Et c'est qui représente cette émission ?
Ben, à partir de la saison 2 jusqu'à cette saison, c'est Denis Brognard. Mais pour la première saison, c'était Hubert Auriol.
Ok. Et tu sais pourquoi l'émission s'appelle Koh-Lanta ?
Oui, c'est le nom où a été tournée la première saison. Ça veut dire l'île aux millions d'yeux, en Thaï.
Et alors, comment est désigné le vainqueur ?
Ben, en fait, il y a un jury final qui est composé des anciens candidats éliminés après la réunification, donc pendant, quoi, des deux équipes.
Et donc, eux, ils votent et c'est eux qui choisissent le vainqueur. Il n'y a pas d'appel au public ou rien de tout ça ?
Non, c'est eux qui décident.
Et on gagne quoi à faire Koh-Lanta ?
Ben, le vainqueur, après le jury final, donc en studio, le vainqueur remporte 100 000 euros et le deuxième finaliste gagne 10 000 euros.
Et maintenant, un petit tour d'interview. Ah, on a encore un auditeur ? Zut, ben, cher auditeur, excusez-nous, on n'avait pas vu les gestes géants de notre 4x4 en régie. Allô, cher auditeur ?
Oui, bonjour. J'aurais une question pour Tintin.
Ah, encore ? Tintin,
oui, je vous écoute.
Donc voilà, ce serait pour vous demander, parce que je suis aussi Koh-Lanta et je voudrais savoir comment vous pensez la finale quand ils doivent départager avec le jury.
Ben, en fait, c'est les anciens candidats quoi, qui ont été éliminés qui, en studio, désignent le vainqueur. Quoi. Qui... Allez, je sais pas expliquer. Qui mériterait de remporter, quoi.
Ah, d'accord.
Est-ce que vous, madame, vous suivez Koh-Lanta ?
Oui, toujours.
Oui, toujours ?
Je suis une fan adepte.
D'accord.
Et en fait, est-ce qu'on peut avoir votre petit prénom, chère madame ?
Nathalie.
Ah ben, enchantée, Nathalie.
Moi, j'ai une question, finalement. Comment on sait si est-ce qu'on peut être pour les rouges ou les jaunes ? Comment on sait si on est pour les rouges ou les jaunes ?
Ça vient en fait au feeling avec les personnes qu'on trouve sympathiques ou pas, ou leur caractère et tout, suivant le jeu qui se déroule, quoi.
On peut pas faire de saison en saison, moi je suis pro jaune ou pro rouge, quoi. C'est... Chaque saison, il faut qu'on change. Enfin, on change, on s'adapte.
Il faut qu'on change, oui, il faut qu'on change. Il faut qu'on s'adapte aux personnes, voire les plus forts, ceux qui s'entendent le mieux, l'équipe la plus chouette.
Merci beaucoup, madame, de votre intervention. Et continuez à nous écouter, surtout.
Tout à fait.
Oui. Au revoir.
Et donc je disais, on va passer maintenant à des interviews faites par notre ami Tintin avec des personnes dans la rue.
Bonjour, moi c'est Tintin et je suis en présence de...
De Sticky.
Voilà Sticky. Déjà, est-ce que vous regardez Koh-Lanta?
J'ai regardé par le passé, il y a des saisons que j'ai moins suivies, mais cette année j'ai un peu regardé un peu par-ci par-là, mais pas tous les épisodes, mais j'en regarde, oui.
Et est-ce que vous aimez l'émission?
Oui, j'aime bien regarder l'émission, ça me divertit, c'est chouette.
Est-ce que vous y participeriez?
Ou est-ce que j'y participerais? Ça c'est une plus grande question, parce que... je sais pas si je pourrais y participer, je pense pas. C'est un chouette défi au niveau physique, etc. Mais je pense vivre pendant 40 jours sans manger beaucoup, sans se laver beaucoup, dans des conditions, on va dire, moins bonnes que ce qu'on a l'habitude de vivre. Je pense pas que je pourrais, non.
Donc vous ne le supporteriez pas?
Je pense pas, non.
Et est-ce que vous auriez une épreuve favorite?
Moi j'aime beaucoup les épreuves d'orientation, donc tu sais où il faut trouver, par exemple, je pense à la dernière mission, c'est où il y a le trésor, où il a trouvé les flèches qui mènent vers le coffre à trésor, où il y a la bague qui mène directement à la finale. Mm-hmm. Ça j'adore, tout ce qui est... j'ai un très bon sens de l'orientation et de l'exploration en général. Et puis après les épreuves... on va dire où ils doivent rester suspendus à quelque chose, debout sur une poutre. Mmh. Ça irait aussi. Je sais pas ce que je donnerais dans ces épreuves, mais j'aimerais bien y participer, oui. Mais sinon, l'exploration en premier.
Et est-ce que vous avez une préférence entre les jaunes et les rouges?
Pas spécialement, non. Et cette émission de Koh-Lanta, cette saison-ci, j'espère que ça va être... j'oublie son nom. Allez, et Yannick, j'aime beaucoup Yannick, chez les jeunes. J'aime bien son esprit d'aventure. Moi, c'est ça que j'aime bien dans Koh-Lanta, c'est les gens qui sont vraiment des brouillards, quoi. Où on voit que c'est eux qui font pas mal de choses, qu'ils sont pas mal attachés à la nature, et qui...
C'est comme aussi Benoît a trouvé
la
vieille balise.
Benoît a trouvé la nouvelle balise. Ça, je suis heureux pour lui aussi. Hein. Quand je verrai un aventurier qui aura la bague, je serai content. Maintenant, ce qui va être dur pour Benoît, c'est que prochaine fois, c'est lui qui décide qui va sauver le trésor. Et puis après, il faut encore que quelqu'un le sélectionne lui. Tu vois?
C'est ça qui va être dur.
Ouais, c'est ça qui va être le plus dur, parce que je pense que s'il y retourne, il trouvera. Oui. Je lui souhaite d'y retourner, hein. Ça a l'air d'être un chouette gars qui a beaucoup de niaque, comme on dit.
Bonjour Monsieur Chapeau, est-ce que je peux vous interroger sur Koh-Lanta?
Oui, sans problème.
Alors, première question, est-ce que vous aimez l'émission?
Je la regarde de temps en temps, parce que j'ai des amis et des gens de la famille qui la regardent. Mais je ne suis pas un grand fan particulier.
Est-ce que vous avez une épreuve favorite?
Ah, j'en ai deux que j'aime bien. J'aime bien celle où ils doivent manger des trucs dégueulasses, là. Des verres de fer, des verres d'eau de coco et tout, parce que j'aime bien voir leur tête. Ils sont toujours un peu dégoûtés. Puis t'en as toujours un qui est un peu en mode warrior.
Et si
vous... Qui fait toujours un peu en mode... moi, j'ai peur de rien, je mange tout. Et à côté de ça... J'aime bien l'émission où ils doivent se rouler dans la boue et puis essayer de ramener le plus de boue là, dans un seau. Je trouve ça assez drôle. Je crois que c'est la seule fois du coup où après ils sont autorisés à prendre un bain. Enfin une douche, je sais pas, mais voilà.
Et est-ce que vous aimeriez bien manger des trucs dégueulasses?
Est-ce que j'aimerais ça? Je sais pas si le mot aimer est le meilleur. Non, est-ce que je le ferais? Ouais, j'ai déjà fait des trucs un peu dans ce genre-là, donc ouais, je crois que je pourrais être capable de le faire. Mais je pense pas que j'aimerais, mais je pense que je serais capable de le faire, ouais.
Et vous avez une préférence entre les jaunes et les rouges?
Alors moi, j'ai pas de préférence entre les jaunes et les rouges particuliers, parce que je pense que chaque année, c'est un peu différent. Donc il y a à chaque fois des nouveaux joueurs. Mais par exemple, moi j'ai des amis, chaque début de Koh-Lanta, et puis pour chaque émission, en plus après, ils font des paris pour savoir qui va gagner sur le, à la fin. C'est un jaune ou un rouge. Et puis, à chaque émission, savoir qui va se faire éliminer entre un jaune ou un rouge. Mais voilà. Mais moi, donc, j'ai pas spécialement de préférence entre l'un ou l'autre.
Et est-ce que vous participeriez à Koh-Lanta ?
Très sincèrement, pas trop. Non. Je pense que... limite, les épreuves sportives et tout me dérangeraient pas trop, mais le côté vivre dans la jungle pendant je sais pas combien de semaines, pas trop mon truc.
Donc si vous deviez partir pendant 42 jours, vous ne le supporteriez pas ?
Non, je pense que le moindre truc, à l'idée qu'il pourrait y avoir des tarentules, des trucs qui montent sur la gueule, non, je pourrais pas. Non. L'idée après de survivre et dire ouais, je vais aller cueillir des noix de coco, je vais aller couper du manioc et je vais trouver de la canne à sucre, pourquoi pas. Mais alors tu m'enlèves toutes les bêtes sauvages de l'île, déjà, hein, par principe. Puis non, je sais pas, je préfère me dépayser autrement qu'en allant vivre pendant 42 jours sur une île déserte toute dégueulasse.
De panique.
Bienvenue à l'émission Masqué.
C'est parti.
Après ramener les tous, Angèle présentera Un galopeur n'est pas un trotteur.
Je compte pas finir au quartier. Je prends mon bénéfice calpé. Le but c'était faire du papier. Je ferme plus les, j'ai des frères enfermés. Ils veulent pas nous servir ton concert. Le clap dans la main, faut que je m'en serve. Parle-moi de bif, pas de blerni. Barre ta gueule, je peux pas te blairer. Prends pas conscience de leur vieux clip. Les armes qui possèdent sont louées. L'alcool t'a noyé, t'as du mal à payer le loyer. La daronne se dit que t'as changé. Elle se demande la prison ou la morgue qui va te soulever. Cherche des plats, vaut même lever du soleil. La pâte du gain me fait perdre le sommeil. Comme la 313, je ne cesse de tourner. Je suis dans un cauchemar, il faut que je me réveille. Tout ça pour le sourire de la madré. J'arrêterai tout ça quand son compte sera blindé. Pour l'instant, ça bosse en indé.
Ramène-les tout seul. Radio panique.
Bienvenue à l'émission Masqué.
C'est parti.
Bonjour Angèle, tu as l'habitude de dire qu'un galopeur n'est pas un trotteur. Mais est-ce que nous pouvons essayer de faire sentir cette différence à nos auditeurs ?
Oui, avec grand plaisir.
Alors Angèle, ça fait combien de temps que tu montes à cheval ?
Depuis que j'ai 3 ans.
Quel est le nom du premier cheval que tu as monté ?
Flicka.
De quelle race était-il ?
C'était une trotteuse.
Connais-tu d'autres races ?
Oui, des Espagnols, Andalous et encore.
Des pur sang ?
Ouais, des purs sang anglais, des purs sang arabes, des selles français.
Et est-ce que tu montes dans un manège ?
Oui.
À quelle fréquence ?
Une fois par semaine.
Merci, Angèle. Dis-nous, Angèle, je pense que tu as une passion pour les chevaux. Est-ce que tu peux nous dire d'où ça vient ?
Ben, en fait, ma passion des chevaux vient depuis que je suis toute petite. Donc, j'ai plus ou moins grandi avec les chevaux et je sais pas, c'est un animal qui m'attirait. Donc, j'ai commencé à découvrir et puis... C'est venu au fil du temps.
Et depuis combien de temps montes-tu à cheval ?
Oula, ça doit faire plus ou moins 11-12 ans.
Et est-ce que tu te souviens de ton premier contact avec un cheval, de tes sensations ?
Ouais, je trouvais ça magnifique.
Tu peux nous expliquer de quelle race... qu'est-ce que la race du trotteur ?
Ben en fait, les trotteurs, c'est des chevaux de course, en fait, donc, qu'on utilise souvent pour les courses de trot, donc on ne peut pas les faire galoper. Et donc, c'est souvent des chevaux qui, quand ne sont plus aptes en fait, à continuer à faire les compétitions de trot, on les enlève des compétitions et on les met en chevaux de concours, en fait. Enfin, on les revend à des manèges, aux abattoirs et des choses ainsi, en fait.
Aux abattoirs ?
Ouais, car ils ne savent pas galoper.
Donc, on leur a appris uniquement à trotter ?
Ouais, on les interdit de galoper, en fait.
Et ça, on fait ça quand ils sont tout
quand
jeunes ?
Quand ils sont tout jeunes, ouais. Au début de leur débourrage.
Ah, et le débourrage, donc, c'est...
Le débourrage, c'est l'apprentissage d'un jeune cheval, en fait. On lui apprend les choses qu'on souhaite lui apprendre.
Et donc là, même s'il a appris à trotter, est-ce qu'on peut quand même lui apprendre le galop ?
Ouais. Plus tard, on pourrait lui apprendre le galop, mais ça dépend.
Il faut beaucoup de persévérance.
Voilà.
Ou après ce bel hennissement, c'est comme ça qu'on dit ?
Ouais.
Un hennissement, Coralin, Angel. Je crois que quelqu'un nous appelle.
Allô ?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, Angel. Donc ici, c'est Mathematica. Et en fait, j'aurais aimé avoir une petite précision sur la différence entre le poney et le cheval, si tu sais. Surtout au niveau caractère, parce que j'ai l'impression que les poneys, ils ont vraiment un mauvais caractère. Mais bon, c'est une idée, quoi, que j'ai.
Mais en fait, je veux bien expliquer. Mais la différence, en fait, dans un cheval et un poney, c'est qu'un cheval, c'est beaucoup plus grand qu'un poney. Mais c'est vrai que les poneys sont un peu plus méchants au niveau caractère. C'est vraiment des têtes de mule.
Ah voilà.
Mais c'est quoi la taille d'un poney ?
Bah la taille d'un poney, c'est plus ou moins dans les 1m50, 1m50, 1m55, ça dépend.
Au-delà, on a un cheval.
Au-delà, ouais, on a un cheval, effectivement.
Et le poney, finalement, c'est aussi plus pour les enfants, non ? Ou c'est une erreur ou pas ?
Non, c'est une erreur en fait, parce qu'un poney, on peut l'utiliser pour faire des concours aussi. Donc ça dépend en fait de la taille de la personne. Et mais sinon, c'est comme un cheval, quoi.
Et est-ce que les adultes ont le droit d'aller sur le poney ou pas ?
Ça dépend de la taille, en fait.
Et chère Mathematica ?
Oui,
Est-ce que c'est une réponse...
Qui vous convient ?
Oui, mais c'est juste que je me disais qu'effectivement... moi, je ne fais pas de cheval, je ne fais pas de poney, mais c'est vrai que les rares fois où je suis montée, où j'ai été près de ces animaux, c'est le poney. Et je trouvais franchement que c'était hyper dur à guider, quoi. Ils voulaient toujours aller brouter et tout ça, j'arrivais pas à faire le parcours qu'on me demandait de faire. Donc je me dis quand même, pour guider un cheval et tout ça, enfin voilà, je me dis ça doit être aussi compliqué, et voilà, je voulais savoir la différence, quoi.
Tout un travail de dressage aussi, c'est ça, peut-être.
Ouais, voilà. Effectivement.
Les poneys, ils sont plus robustes aussi.
Ah, voilà.
Oh, pas spécialement, tu sais. Ça dépend, hein. Il y a des chevaux porteurs, et comme des poneys porteurs, et puis il y a les chevaux tout fins, en fait. Et de jeunes poneys aussi, ils sont tout fins. Donc voilà.
Merci Mathematica de votre appel.
Au revoir.
Merci beaucoup à vous. Hein. Très chouette émission. Hein. Merci.
Merci et continuez à nous écouter. Au revoir.
Bien justement, Angel, je me demandais si tu avais monté d'autres races de chevaux que le trotteur dont tu viens de nous parler.
Oui, j'ai monté il n'y a pas si longtemps en espagnol. Donc voilà. Des selles français aussi, j'en ai déjà monté. Pur sang arabe aussi, j'en ai monté. Enfin, un peu toutes les races, quoi.
Et donc, tu ressens une différence selon la race du cheval que tu montes ?
Ouais, effectivement.
Et tu fais de l'équitation dans un manège ?
Ouais.
À quelle fréquence tu y vas ?
Bah, une fois par semaine, voire deux fois par semaine, ça dépend.
Et tu as différentes manières d'interagir avec un cheval ?
Oui. En fait, si j'ai un bon feeling, ben, ça ira mieux avec le cheval. Par contre, si j'ai pas un super bon feeling, ça va pas trop.
Ah, je pense que nous avons un autre auditeur.
Bonjour, cher auditeur.
Oui, bonjour. Voilà, je m'appelle Marie-Lise, j'appelle d'Anderlecht. Je voulais tout d'abord dire que j'ai été très touchée par le reportage qu'Angel a fait. On sent une réelle passion de sa part pour les chevaux. On entend quasi le sourire dans sa voix quand elle en parle et ses yeux qui pétillent. Et donc, j'ai une question. Je voulais savoir si Angel avait déjà eu l'occasion d'apprendre un trotteur à galoper. Et si elle pouvait nous donner des trucs et astuces et nous dire comment elle a fait.
Bah oui, je vais répondre à la question. Oui, j'ai déjà fait galoper un trotteur, en fait, qui ne savait pas galoper.
D'accord.
Et comment t'as fait ?
Ouais. Bah, avec la patience, beaucoup de patience, car c'est des chevaux qui ont été le plus souvent battus pour éviter qu'ils puissent galoper. C'est beaucoup leur rendre en confiance, donc à la longe, donc sans le cavalier sur le dos. Et vraiment, petit à petit, en fait, à chaque fois, en reculant sa jambe, donc extérieure, lui demander le petit départ, vraiment très gentiment, en ralentissant ses épaules. Et après, il partira tout seul. Mais c'est vraiment des mois et des mois d'entraînement.
Oui, et donc, j'imagine que le lien de confiance aussi est important.
Ouais.
Et que... D'accord. Okay.
Il faut vraiment un vrai lien de confiance si on veut apprendre à un trotteur à galoper.
Ok. Ah ben, tout grand merci pour ces bons conseils.
De rien, avec grand plaisir.
Oh. Au revoir, cher auditeur.
Auditrice, sur le
auditrice.
Coup.
Auditrice.
Eh bien, quel travail, en tout cas, autour du trotteur pour le faire devenir un galopeur. Félicitations, Angèle.
Merci.
On arrive, ceci dit, bientôt à la fin de notre émission. Donc,
est-ce que peut-être autour de la table, d'autres personnes ont des expériences avec les chevaux, peut-être ici, non. Adam.
Non, jamais.
Est-ce que tu n'es jamais monté sur un cheval?
Non.
Et est-ce que tu te dis, tiens, j'aimerais bien?
J'aimerais bien essayer, mais voilà, ouais, une fois et puis
t'as déjà approché
tout.
L'animal un petit peu?
Non.
Non? Pas une caresse sur... C'était jamais arrivé même de, tu sais, de caresser la crinière du cheval ou du, non, jamais?
Non, non.
Ok. Et Tintin, psychopathe Tintin.
Moi, j'ai déjà fait. Parce que quand j'étais en primaire, j'ai fait un voyage avec l'école, un voyage scolaire. Et j'ai déjà fait avec des poneys. Souvent, je le faisais avec des poneys, je les guidais ou je montais dessus. Mais on ne courait pas, on marchait, seulement on se baladait. Et une fois, j'ai aussi fait avec un cheval, mais c'était pas vraiment pour se balader, c'est juste pour faire des tests, si j'arrivais à toucher sa queue ou quoi.
Je pense qu'on a un auditeur en ligne.
Ah.
Oui, allô?
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 Je crois qu'il y a personne.
Auditeur, auditrice?
Allô?
Vous êtes bien?
Allô? Allô? On m'entend là, sur les ondes?
Ah, oui. Vous nous appelez d'où, dis donc?
Ben, j'appelle, je viens du Québec, j'habite à Bruxelles, mais j'ai une question par rapport à ces chevaux. Je voudrais savoir si vous avez déjà entendu parler de cheval-thérapie, quelque chose comme ça, là.
Peut-être quelque chose qu'on appellerait l'équithérapie.
Ou l'éthologie.
Ou l'hypothérapie.
Ah, l'hypothérapie.
Ouais, ou l'éthologie aussi.
Peut-être m'en parler un mot, là, m'en toucher un mot.
Ah, est-ce que quelqu'un veut bien peut-être expliquer ce que c'est que l'hypothérapie ou quelqu'un... Non, personne.
Est-ce que ce serait pas un peu sensibiliser, créer un contact entre une personne qui aurait...
Ouais.
Des difficultés, enfin peut-être...
Un... Mais on fait souvent ça, en fait, avec les personnes qui ont un handicap, que ce soit physique ou mental.
Ouais.
C'est vraiment des chevaux, en fait, qu'on a adaptés pour pouvoir travailler ça, donc des chevaux très calmes et vraiment pas nerveux. Mmh. Et c'est vraiment établir une confiance, en fait, entre l'être humain et le cheval.
D'accord. Ok, donc c'est un travail particulier, puisque finalement, c'est l'idée qu'on est obligé de s'adapter un petit peu au cheval,
voilà.
C'est ça hein, on est obligé un petit peu d'adapter notre comportement au cheval, parce que lui, il ne va pas forcément faire l'effort de s'adapter
non,
à
non,
notre caractère.
Non, il faut
caractère.
Vraiment être très très calme avec un cheval, car un cheval, c'est très très peureux de base, vu que ça vit en groupe, en fait, enfin, ça vit en meute, entre guillemets. C'est, enfin, en troupeau plutôt. C'est vraiment des chevaux. Enfin, les chevaux sont vraiment très très peureux de base en fait. C'est vraiment. S'il y en a un qui entend quelque chose et que ça part, ben, y a tous les autres qui suivent. Quoi. Donc d'accord. Voilà.
Ok. Est-ce que ça vous va, chère auditrice?
Mais c'est pas ben gentil. Je crois que je vais peut-être essayer pour moi-même parce que des fois je suis pas toujours à l'aise. Alors c'est un bon conseil, c'est gentil. Merci beaucoup à vous tous.
C'est une bonne idée. Au revoir et puis continuez à nous écouter, que ce soit à Bruxelles ou
au Québec.
Au revoir.
Au revoir.
Et on revient rapidement avant de vous dire au revoir, chers auditeurs, sur rapidement peut-être si quelqu'un veut partager
une expérience de Tintin équestre.
Tintin, est-ce que tu as une expérience avec les chevaux? Est-ce que tu as déjà approché des chevaux? Est-ce que tu es déjà monté sur un cheval?
J'ai juste caressé un cheval.
Ou un poney.
Ouais. J'ai juste caressé un cheval, quoi.
Ah, bah d'accord. Mais et alors, c'est quelque chose...
As-tu aimé?
Oui, sans plus.
Ok. Et tu n'es jamais monté sur un cheval, hein?
Une fois, peut-être.
Une fois, ok. Moi, j'ai le souvenir d'être monté sur plusieurs fois sur des chevaux. Bon, je suis pas hyper à l'aise, mais bon, ça m'est arrivé très peu de fois. Je me souviens que j'étais monté dans un pays aussi où à l'étranger et que les chevaux avec des marques d'éperons sur les côtés comme ça, parce qu'ils étaient souvent montés à un pays où peut-être la cause animale n'était pas aussi forte que chez nous. Et c'est vrai que c'est quand on pense au cheval, bah c'est aussi la cause animale, hein, c'est vraiment prendre soin du cheval, etc. Et c'est voilà, donc c'est aussi quelque chose qui est
J'ai une question important. Qui va faire peut-être débat. Qui mange du cheval? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici autour de la table a déjà mangé du cheval?
Je sais que ma maman aime bien les steaks de cheval.
Ah. Aussi qu'on m'a proposé plusieurs fois d'en goûter. Je pense que c'est quand même assez pas célèbre à Bruxelles, mais je sais qu'il y a quelques endroits où on sert des steaks. C'est
quand même... Je ne conseille pas de manger cette bière.
On ne dira pas la tête qu'Angèle fait là maintenant.
Non, vaut mieux pas.
Voilà. Ok. Eh bien après, peut-être toutes ces belles discussions et ces beaux sujets, eh bien, chers auditeurs, il va être temps de se quitter puisque il est bientôt 16h. Nous allons rendre l'antenne. Et nous allons tranquillement vous dire au revoir et puis au mois prochain. Allez, on dit au revoir.
Au revoir. Dada.
Salut.
Au revoir.
Salut à tous, chers auditeurs.
Salut.
Salut, chers auditeurs. Et puis continuez d'être présents avec nous chaque mois. C'était l'émission Masquée. Merci.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
À la prochaine.
Quant aux mots, je m'en méfie. Je les ressens comme un tapage, un immense désordre qui fausse les sonorités. Quand je suis sous l'emprise de l'inspiration, les mots viennent tout de suite, comme un sous-produit de la coulée musicale. Ces paroles qui naissent dans mon cœur et non dans ma tête s'intègrent harmonieusement au reste de l'œuvre.